Rebonjour. C'est toujours un plaisir de me retrouver parmi vous. J'y étais il y a à peu près trois mois et demi peut-être. Et merci de m'inviter à nouveau. Ça veut dire que je ne vous ai pas assommé la dernière fois. Très bien. Je crois que nous avons déjà lu le passage. Vous l'avez lu ensemble et le titre de ce message ce matin, c'est cet après-midi, c'est Anne, le réveil de la foi. Anne, le réveil de la foi. Donc, vous avez lu ce passage qui raconte l'histoire d'une femme qui s'appelle Anne. L'histoire qu'elle a vécue, enfin, une phase de vie avec son mari et sa co-épouse, n'est-ce pas, la deuxième femme de son mari, comme il y en avait à l'époque. Et à travers ce passage, je crois que nous avons quelques leçons à apprendre. Et le Seigneur a des choses à nous dire là-dessus. Si je vous demandais ce matin, oh, excusez-moi, je dis toujours le matin, parce que je suis habitué à prêcher le matin. Si je vous disais cet après-midi, est-ce que vous avez la foi? Que diriez-vous? Est-ce que vous êtes croyant? Alors, si vous dites oui, ça veut dire que, en réalité, non, vous l'êtes. On peut pas dire vous l'êtes pas. Si vous dites que vous l'êtes, c'est que vous l'êtes. Vous êtes convaincu de cela. Et ça, c'est la chose. C'est une chose très importante parce que si vous n'êtes pas convaincu, qui le sera pour vous, n'est-ce pas? Vous êtes convaincu d'être chrétien, d'avoir la foi. Si vous le dites, c'est parce qu'en réalité, vous avez installé dans votre vie des habitudes. Une des habitudes, c'est d'être là le dimanche après-midi, n'est-ce pas, pour écouter la parole de Dieu. Une des habitudes, c'est de lire la Bible chez vous, c'est de prier, d'avoir des réunions de prière, d'encourager les personnes au métro ou je sais pas moi, dans le bus, à l'école, au travail. Vous avez installé des habitudes. Ces habitudes sont des choses qui sont bonnes, parce que j'appelle cela des habitudes spirituelles, n'est-ce pas? Mais le danger dans les habitudes spirituelles, c'est qu'elles peuvent devenir une routine. Des choses que l'on fait par habitude. Oh, c'est dimanche après-midi, il est 14h, il faut que je sois au 65 quai de la Pie parce que on a une réunion à l'église. Ça devient une habitude le matin. Oh, il faut que je me lève, il faut que je lise ma Bible. Oh, il faut que je prie. Et on n'en tire plus quelque chose qui soit utile pour notre vie. On vit des choses qui sont devenu une habitude. Et là, on est en danger, vous savez. Il ne faut pas que notre vie spirituelle devienne quelque chose de rituel, quelque chose que l'on fait par habitude, mais quelque chose qui est toujours nouveau, parce que chaque fois que tu vas rencontrer ton ami que tu connais depuis 20 ans, chaque fois que tu vas le rencontrer, ce n'est pas comme si je vais encore le voir aujourd'hui, quoi. Non, quand tu vas voir ton ami, tu es content de le rencontrer, tu es content de le voir, même si c'est la millième fois que tu le rencontres. Puisse-t-il en être ainsi avec notre Dieu et notre Seigneur. Vous savez, il y a une église dans l'Apocalypse, Apocalypse 3:1-3, à qui le Seigneur a dit, tu passes pour être vivant, mais voici, tu es mort. Ça, c'était une petite parenthèse. Revenons à notre texte tout à l'heure. Alors, on a lu l'histoire de cette femme, Anne. Le premier titre que je donne à cette étude, c'est « Un ménage dysfonctionnel ». Un ménage qui ne tourne pas rond, on peut dire. Je vais peut-être faire brièvement l'histoire, ou bien la genèse de cette histoire. Dans ce texte que vous avez lu, il y a trois acteurs principaux visibles et quelques acteurs qui sont invisibles. Alors, le premier dont on nous parle, c'est qui? C'est Anne. Anne, c'est la femme d'un homme qui s'appelle Elkana. Vous savez ce que ça signifie, Anne? Anne, ça veut dire grâce, faveur. Donc, cette dame-là, elle épouse de Elkana. Elkana, c'est un homme pieux. Un homme qui respecte Dieu. La Bible nous dit que toutes les années, il montait à Silo. À Silo, c'était le lieu où se trouvait l'Arche de l'Alliance. Et là, il faisait quoi? il faisait des sacrifices rituels, n'est-ce pas, comme l'exigeait la loi. Donc, cet homme Elkana était un homme qui avait la crainte de Dieu et qui voulait respecter Dieu. Mais il avait cette femme, Anne, et il aimait Anne. La Bible nous dit, le passage que nous avons lu nous dit que cet homme aimait sa femme. Mais il a été obligé, je ne sais pas si on peut dire obligé, mais voilà qu'il a pris une deuxième épouse, une deuxième femme. Pourquoi est-ce qu'il a pris une deuxième femme? Vous savez, parfois pour nous aujourd'hui, ça peut être choquant de voir qu'il y a une deuxième femme. Parce qu'on se dit, la polygamie, mais non. Non, c'est pas ça. Simplement, pour l'époque, c'était quelque chose de normal, de naturel, d'avoir plusieurs femmes. D'accord? Donc, en cela, il n'y a pas quelque chose d'étonnant. Mais ce que je veux relever ici, c'est que, bien que cet homme aimait sa femme, il a pris une seconde femme parce que la femme qu'il aimait était stérile. La Bible nous dit qu'elle n'avait pas d'enfant. Et certainement, cet homme, Elkana, a dû subir la pression, certainement amicale, fraternelle, je dois dire, de l'époque. Ses parents, peut-être les amis, ils se disaient, oh, toi tu es un homme et tu n'as toujours pas d'enfant, il y a un problème. Ta femme a un problème, alors il te faut prendre une deuxième épouse. Donc voilà, bien qu'il aimait sa femme, il a été presque contraint par son environnement à prendre une autre femme. Pourquoi cette femme était stérile? La Bible nous dit que cette stérilité n'était pas la conséquence du hasard. C'était pas parce que, c'est pas moi, elle avait péché ou bien elle avait une maladie. Non! La Bible nous dit, Dieu l'avait rendue stérile. Sa stérilité venait de Dieu, elle ne venait pas d'un homme. Vous savez, parfois il nous arrive des choses dans la vie et on se dit, oh, c'est encore le diable, oh, c'est encore le mot, je sais pas moi, c'est quelqu'un qui me veut du mal. Non, parfois, les choses qui nous arrivent et qui semblent être des choses compliquées, difficiles, font partie du plan de Dieu dans notre vie. Parce que Dieu veut que nous passions par là pour que nous atteignions le point où il veut que nous arrivions. Parce que quand nous arriverons à ce point-là, alors il pourra vraiment se servir de nous. Tant que nous n'avons pas subi, tant que nous ne sommes pas passés par ces diverses phases de nos vies, nous ne sommes pas encore utiles, j'allais dire, aguerris, exercés pour faire ce que Dieu attend que nous fassions. Vous savez, dans la Bible, il y a quelques passages, vous avez entendu parler de Job. Job était un homme qui, la Bible dit, qui aimait Dieu. Dieu était fier de Job. Est-ce que Dieu est fier de vous ce matin, cet après-midi? Est-ce que Dieu est fier de vous? Est-ce que quand Dieu vous regarde, il peut dire, oh, regarde mon fils, regarde ma servante, je suis fier de lui. Et quand Satan passe par là, il lui dit, est-ce que tu as vu ma servante qui est au 65 rue de la Pie? Tu l'as vu? Tu as vu mon serviteur qui est là? Tu l'as vu? Vous savez, parfois, je le dis en souriant, parfois, c'est dangereux d'être le chouchou de Dieu. Parce que Dieu était tellement fier de Job qu'il ne pouvait pas s'empêcher de se vanter, j'allais dire, pour parler humainement. Et quand Satan passe par là, il dit, tu as vu, il y a Job, mon serviteur. Nul n'est comme lui. Et Job lui dit, Satan lui dit, mais écoute, il est comme ça parce que tu l'as gâté, c'est ton chouchou. Et Job va passer par plusieurs épreuves, des épreuves difficiles, compliquées. Vous savez, sa femme va lui dire quoi? Maudit Dieu et meurt. Parce que c'était pas normal pour elle. Simplement, attention, les choses que nous vivons ne sont pas forcément une malédiction. Vous savez, dans la Bible, il y a un autre passage qui nous parle d'un homme qui a connu des temps difficiles, qui est né malade. C'est dans Jean au chapitre 9, 1 à 3. Je ne sais pas si on peut le voir, voilà. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. Maître, qui a péché? Cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché,
mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient révélées en lui. Ah oui. Parfois, nos situations compliquées sont là pour révéler les œuvres de Dieu. N'est-ce pas? Pour les disciples et pour beaucoup de chrétiens, parfois, quand tu as un problème, c'est parce que tu as péché. Quand tu as un problème, c'est parce que il y a quelque chose qui ne marche pas dans ta relation avec Dieu. Non, il n'en est pas ainsi. Tout simplement, parfois, Dieu se sert de nous à travers ces circonstances pour révéler sa gloire. C'est pourquoi faisons attention quand un frère, une sœur, quelqu'un que nous connaissons ou apprécions passe par des moments difficiles. Au lieu de juger, prenons le temps de prier pour lui, de demander au Seigneur de le fortifier, de le relever, de l'encourager alors qu'il passe par ses épreuves. Elkana voulait des enfants. Anne ne pouvait pas lui donner des enfants. Il a pris Pénina. Et la Bible nous dit qu'entre ces deux femmes, c'était la guerre. C'était la guerre. Et je me doute bien que dans un mariage comme celui-là, c'est la guerre. C'est dysfonctionnel. La Bible nous dit que Pénina se moquait ouvertement de Anne. Elle se moquait ouvertement de Anne du fait que Anne était stérile. Pénina était d'autant plus fâchée contre Anne que, bien qu'elle n'ait pas d'enfant, la Bible nous dit que son mari l'aimait vraiment. Il l'aimait tel que, à un point où, quand ils allaient à Silo, il donnait une double portion à son épouse Anne. Et ça devait avoir pour conséquence d'enrager un peu plus Pénina, n'est-ce pas? Mais je me dis, la conséquence de ce dysfonctionnement, ce n'est pas Pénina, ce n'est pas vraiment Anne. Mais ce qui a amené ce dysfonctionnement, c'est Elkana lui-même. Vous savez, parfois, on a tellement besoin de quelque chose qu'on croit qu'on peut aider Dieu. Je vous dis, si à un moment donné dans votre vie, vous pensez que vous pouvez aider Dieu, c'est un mauvais plan. Parce que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Et chaque fois que nous pensons que nous allons aider Dieu, nous compliquons notre propre situation. Alors je vais dire peut-être à quelqu'un cet après-midi, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves, quelles que soient les choses compliquées ou pas, mais pas forcément agréables, au travers desquelles tu passes, peut-être es-tu tenté de tendre les mains vers l'iniquité, vers quelque chose qui ne glorifie pas le Seigneur, parce que ça semble bien à ce moment-là, ça semble correct, ça semble même admis socialement. Ce que j'ai envie de dire, c'est fais le choix de rester dans la voie de Dieu. Ce Dieu que tu connais par ailleurs. Et ne te laisse pas attirer et séduire par la facilité qui t'éloignerait alors des voies de Dieu. Reste fidèle à Dieu, même quand les choses semblent difficiles. Vouloir aider Dieu pour l'accomplissement des desseins, c'est toujours un mauvais plan. La Bible nous parle d'un certain Abraham et de sa femme Sarah. Vous savez, Dieu avait fait une promesse précise à Abraham. Il avait dit, je te donnerai un fils. Et à travers lui, n'est-ce pas, tu deviendras le père des nations. Mais voici que le temps passe et le fils ne vient pas. Qu'est-ce qu'elle fait, Sarah, sa femme? Elle prend Agar, sa servante, elle met dans le lit de son mari. Ça aussi, ça nous choquerait aujourd'hui. Mais c'est des choses qui se passaient à l'époque, ça faisait partie des rituels de coutume. Elle prend sa servante, elle met dans le lit de son mari, et qu'est-ce qui se passe? Ismaël naît. Et aujourd'hui encore, nous subissons les conséquences, n'est-ce pas, de cette erreur-là. Tout le monde aujourd'hui connaît la haine qu'il y a entre les Juifs et les Arabes. Ça vient de là, justement. Parce que un jour, Sarah a voulu aider Dieu dans le plan de Dieu. Quelles que soient nos attentes, nos besoins, ne transgressons pas les principes de Dieu. Vouloir aider Dieu en transgressant ses principes sera toujours une mauvaise idée. Vous savez quoi? Dieu ne se trompe pas. Dieu est pour vous. Dieu est pour nous. Dieu vous aime. Dieu nous aime. Il est le Tout-Puissant. Il est au contrôle de toutes choses. Et quand il a promis une chose, il l'accomplit. Il l'accomplit. Nous devons avoir dans notre cœur comme des certitudes de l'âme. Nous devons avoir ces choses comme des ancres de l'âme. Vous savez, une ancre, quoi ça sert dans la vie, une ancre? À stabiliser un bateau. Et quand est-ce qu'on jette l'ancre? Lorsqu'il y a une forte houle, quand la mer est déchaînée. Et le but de l'ancre, c'est de stabiliser le bateau autour d'une position. Que notre foi, n'est-ce pas, soit comme cette ancre-là, qui, malgré la tempête, reste stable, stabilisée dans notre foi, dans notre confiance en Jésus-Christ. La Bible nous dit, ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, avec quoi nous habillerons-nous. En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples qui le cherchent. Or, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice et tout cela vous sera donné par-dessus. Je sais, je n'ai pas lu Ésaïe 49, mais c'est pas grave. Si nous sommes disciples de Jésus-Christ, laissons Dieu agir en toute souveraineté dans nos vies pour accomplir ses plans, ses promesses. Et s'il a des plans et des promesses, parce qu'il en a pour chacune de nos vies, il les accomplira certainement. Amen. La seule chose dont nous avons à nous soucier, c'est d'être nous-mêmes simplement trouvés fidèles dans la parole de Dieu. Alors voilà Anne, on revient à cette dame, dans l'adversité. Elle vivait dans un ménage dysfonctionnel, comme je viens de le dire. Et elle en souffrait, normal. Qui ne souffrirait pas? Chaque jour, tu entends ton épouse, ta co-épouse qui se moque de toi, tu entends ses enfants qui ricanent, etc. Qui ne souffrirait pas de cela? Et la souffrance, comme je l'ai dit tout à l'heure, était d'autant plus grande pendant cette période où il fallait monter à Silo pour aller sacrifier à Dieu. La Bible nous dit qu'à cette occasion-là, Pénina mettait un soin particulier à pousser Anne à lever le poing contre Dieu. Parce que Pénina, comme son mari, comme son entourage, savait que sa stérilité venait de Dieu. Je ne sais pas comment elle le savait, mais elle le savait. La Bible nous dit au verset 6 du passage que nous avons lu, de 1 Samuel 1, « Sa rivale la provoquait pour la pousser à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. » Oh, vous n'avez jamais entendu ça? Mais si ton Dieu est bon pour toi, pourquoi est-ce que tu passes par ces moments difficiles? Si ton Dieu est là pour toi, pourquoi est-ce que, n'est-ce pas? Vois ce que ton Dieu t'a fait. Vois dans quoi ton Dieu t'a laissé aller. Parfois, les chrétiens subissent ce genre de réflexion. Et Anne subissait, à ce moment précis, ces réflexions de sa coépouse Pénina qui lui disait, irrite-toi contre Dieu, fâche-toi contre Dieu, il t'a rendu stérile. Et la Bible nous dit que cette situation a duré plusieurs années. Parce que voyez-vous, Pénina avait plusieurs enfants, donc chaque année, c'était le même scénario. Alors, comment est-ce qu'elle réagit Anne? Dans un premier temps, qu'est-ce qui se fait? Elle se lamente. Elle pleure, elle refuse de manger, elle s'attriste, elle s'apitoie sur elle-même. Ça, c'est une réaction purement humaine, purement charnelle. De dire, voilà, je suis malheureux, voilà, etc. Parce qu'elle l'était en réalité, cette dame. Mais est-ce que cela a changé quelque chose? Est-ce que le fait de s'apitoyer sur elle-même a apporté une solution à sa situation? Non, au contraire. Cela avait pour but de réjouir le cœur d'une certaine Pénina qui se disait, je l'ai encore eu aujourd'hui. Elle est allée pleurer encore, très bien fait pour elle. Bref, ça, je crois, empirer. Dans un deuxième temps, qu'est-ce qu'elle a fait, Anne? Dans un deuxième temps, la Bible nous dit, alors qu'ils étaient à table, Anne se leva. Dans un deuxième temps, elle a dit, c'en est assez de pleurer sur moi-même. Je vais aller déposer mes fardeaux aux pieds de mon Dieu. Je vais aller lui parler dans une relation de cœur à cœur. Je vais lui dire la douleur que j'ai au-dedans de moi. La Bible nous dit au verset 9, Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le prêtre Élie était assis sur son siège près de la porte du temple de l'Éternel. L'amertume dans l'âme, il faut en être autrement, elle pria l'Éternel et pleura abondamment. Vous savez quoi? Si vous avez envie de pleurer devant Dieu, ne retenez pas vos larmes. Parce que Dieu sait, il connaît vos douleurs, il connaît vos angoisses, il connaît vos souffrances, il connaît vos besoins. Si vous avez envie de pleurer devant Dieu, je crois que c'est le meilleur endroit où l'on peut pleurer vraiment. Et c'est le meilleur endroit parce que nos larmes ont du prix aux yeux de Dieu. Alors Anne s'est levée. Plutôt que de pleurer devant les hommes, de réjouir Pénina qui se réjouissait de l'avoir pleuré, elle est allée parler à Dieu. Vous savez quoi? Anne aurait pu se lever et aller parler au sacrificateur Élie. On pourrait dire au pasteur, ou au prêtre, je ne sais pas trop. Aujourd'hui, on pourrait dire. Et lui dire le trop-plein de son amertume. Lui dire, tu vois, Pénina, elle est mauvaise, elle est méchante, elle me fait des méchancetés. Non. Elle s'est levée et elle s'est tenue devant Dieu. Et quand elle se tient devant Dieu, vous savez quoi? Elle n'incrimine pas Dieu. Parce que parfois, quand on est dans la souffrance, on se dit, mais Dieu, c'est pas juste. C'est pas normal que je passe. Pourquoi est-ce que tu m'as fait ça, Seigneur? C'est pas juste. Non, elle n'est pas allée dire à Dieu, c'est pas juste. Elle lui a dit, 1 Samuel 1, verset 11, elle fit le vœu suivant, Éternel maître de l'univers, si tu consens à regarder la détresse de ta servante, si tu te souviens de moi, si tu n'oublies pas ta servante et lui donnes un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour toute la durée de sa vie et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Voyez-vous, il y a quelque chose d'extraordinaire. Anne pleure parce qu'elle n'a pas un fils. Parce qu'elle n'a pas un fils. Et quand elle demande un fils, c'est pas pour le garder pour elle. C'est pour le mettre au service de Dieu. Nos choses, les choses que nous voulons avoir, nous les voulons pour qui? Pour nous-mêmes ou pour la gloire de Dieu? Ce pourquoi je me bats, ce après quoi je cours, pourquoi je le fais? Est-ce que je le fais pour moi ou pour que Dieu soit glorifié? La Bible me dit, soit que vous mangez, soit que vous buvez, quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Mon ami, si tu veux que les choses changent dans ta vie, arrête de pleurer sur toi-même. Arrête de t'apitoyer sur ton sort. Arrête de t'apitoyer sur les circonstances de ta vie. Mais va au pied de la croix et parle à Dieu en toute humilité, en reconnaissant sa souveraineté et son autorité dans ta vie. C'est seulement à ce moment-là que véritablement les choses commenceront à changer. Moi, j'aime bien cette histoire. Parce que voyez-vous, après que Hans ait parlé au Seigneur, et parler à Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Anne se lève. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle va s'asseoir à la table. En face de qui? En face de Pénina, n'est-ce pas? À côté de Elkana. Et elle se met à manger. Et elle se met à boire. Et la Bible me dit que son visage, même l'aspect de son visage, change. Elle est rayonnante. Pourquoi? Parce qu'elle a eu un face à face avec Dieu. Parce que réellement, elle a déposé son fardeau auprès, au pied du Seigneur. Et elle sait que le Seigneur a entendu sa prière. Elle arrête de se lamenter. Elle arrête de pleurer. Elle arrête de considérer les outrages, les insultes de Pénina. Elle reprend goût à la vie et elle rayonne à nouveau. Parce que c'était une jolie femme, voyez-vous. Ce ne sont pas les circonstances extérieures qui doivent gouverner nos vies. Non. Ce ne sont pas les circonstances extérieures qui doivent gouverner nos vies. Son cœur à cœur avec Dieu a réveillé sa foi. Son cœur à cœur avec Dieu a redynamisé sa foi. C'est pas que sa foi n'était pas là, mais sa foi était quelque part un peu endormie, mise en sommeil. Et le fait de trouver le temps de parler à Dieu a redonné vie à sa foi. Ça veut dire que toutes les années antérieures, quand elle partait, elle pleurait, rentrait chez elle. Elle n'avait pas eu la pensée de se mettre aux pieds de Dieu pour lui parler de son problème. Mais ce jour-là, elle l'a fait. Et quelque chose s'est passé. Mes amis, je ne sais pas quelle situation vous pouvez vivre aujourd'hui. Mais quelle que soit votre situation, prenez le temps de passer du temps devant Dieu et de lui ouvrir votre cœur parce qu'il entend et il répond. Parce que quand on a passé du temps devant Dieu, quelque chose de nouveau se passe. La Bible nous dit que lorsque Moïse est descendu de la montagne, son visage rayonnait tellement qu'il a été obligé de mettre un voile parce que il éblouissait. Quand nous passons du temps devant Dieu, nous devenons éblouissants. Vous savez ça? Nous devenons rayonnants. Et les gens qui nous regardent vivre se disent, il y a quelque chose de nouveau dans la vie de cet homme, de cette femme. Moi, je me souviens, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, ceux qui me connaissaient avant me demandaient, mais qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as complètement changé. Oui, parce que quelque chose avait changé dans ma vie. J'avais rencontré le Seigneur et j'étais devenu le temple du Saint-Esprit. Alléluia! Oui, c'est cette rencontre qui change et qui bouleverse les circonstances de nos vies. Voyez-vous, quand je pense à Anne, est-ce que ses circonstances extérieures avaient changé? Est-ce que Pénina avait meilleur caractère? Je ne pense pas. Pénina devait continuer de se moquer d'elle. Mais non, mais est-ce que ça l'atteignait encore? Non, c'était fini. Elle qui ne voulait pas manger, s'était mise à manger. Elle qui ne voulait pas boire, je vois la tête de son mari d'ici. Elkana devait dire, mais il s'est passé quelque chose, qu'est-ce qu'il y a? Oui, il s'était passé quelque chose. Et ce qui s'est passé, ce n'est pas un homme qui peut le faire. Quel que soit ce que les hommes peuvent vouloir nous apporter, de tout leur cœur, avec sincérité, cela ne peut jamais, jamais remplacer la place ou prendre la place de Dieu dans nos cœurs. Quel que soit l'amour que nous avons pour les autres, cela ne peut pas prendre ou remplacer leurs besoins de Dieu. Lorsque Anne se lève, est-ce que Dieu lui a fait la promesse de lui donner un enfant? Non. Quand nous lisons ce passage, Dieu ne lui a pas fait de promesse. Au contraire, elle a tellement prié que même Élie le sacrificateur, on dira le pasteur, la traite avec dureté, va cuver ton vin ailleurs. Et là, je crois, si elle n'avait pas eu cet instant, elle se serait effondrée en larmes. Mais non, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit, mais non, mon Seigneur, ne prends pas ta fille pour une femme de rien. C'est le trop plein de ma douleur que je répandais devant le Seigneur. Et oui. Et Élie peut se reprendre et lui dire que le Seigneur exauce ta prière. quand on passe du temps devant Dieu, la dimension de nos problèmes change. Parce que ce n'est plus nous qui les portons réellement. C'est Dieu qui les porte. Pour Anne, il s'est produit un miracle. Le réveil de sa foi. C'est ce que j'ai appelé le miraculeux de Dieu. Quand on tourne les regards vers lui, nous dit la Bible, psaume 34, verset 6, on est rayonnant de joie et le visage ne rougit pas de honte. C'était fini la honte pour Anne. Et la Bible me dit en Philippiens 4, verset 6, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. En effet, on peut dire que pour cette femme, la paix que Dieu lui a donnée dépassait l'entendement humain. Et je voudrais partager avec vous ce dernier verset. Est-ce que vous êtes chargé cet après-midi? Est-ce que vous portez un lourd fardeau? Alors voilà ce que le Seigneur dit. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau léger. Alléluia. Mes exigences sont bonnes et mon fardeau léger. Ce que je veux dire cet après-midi, c'est qu'en Dieu, il n'y a aucune ombre de variation. Ce Dieu qui a été capable de renouveler l'être intérieur de Anne, ce Dieu-là est avec nous ce soir. Parce qu'il est au milieu de nous. Il dit que là où deux ou trois sont rassemblés en son nom, il est au milieu d'eux. Et il est là parce que nous sommes plus que deux, plus que trois. Dieu ne change pas. Et il est pour nous cet après-midi. Est-ce que tu veux laisser le Seigneur accomplir ses plans dans ta vie? Est-ce que tu veux laisser le Seigneur accomplir ses plans dans ta vie? Ou bien tu veux continuer de te battre et essayer de trouver toujours et encore des solutions par toi-même? Ce n'est pas qu'il ne faille pas rechercher, mais avant toute chose, il faut aller trouver la direction au pied du Maître. Et j'aime le verset 20 de ce passage que nous avons lu. Un an après, Anne est revenue à Silo avec un enfant. Cet enfant, c'était Samuel. Oh non, il n'est même pas revenu. Il a dit, montez sans moi, parce que moi, je vais encore allaiter mon enfant. Et quand il sera sevré, je le montrerai à Silo. Et je le donnerai, comme je l'ai promis à l'Éternel. Et quand on lit l'histoire de cette dame, elle a eu et des fils et des filles. Après celui-là, Samuel, qu'elle a donné au Seigneur. Eh oui. Voilà ce que le Seigneur est capable de faire dans la vie de quelqu'un qui choisit de lui faire pleinement confiance. Est-ce que tu veux pleinement faire confiance à Dieu cet après-midi? Pour la situation dans laquelle tu es, je ne la connais pas. Il connaît ton cœur. Est-ce que tu veux pleinement lui faire confiance dans les circonstances de ta vie? Peut-être que tu n'as pas de problème aujourd'hui, mais nous tous, nous savons qu'un jour ou un autre, dans la vie que nous vivons, nous traverserons forcément par des choses compliquées. Souviens-toi ce jour-là que Dieu est pour toi, que Dieu t'aime, que Dieu est au contrôle de chaque circonstance de ta vie. Et fais-lui confiance. Ne tourne pas des regards inquiets. Mais dépose alors tes problèmes aux pieds du Maître. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, notre Roi, merci parce que tu nous enseignes au travers des histoires que nous lisons dans ta parole, qui nous disent ta fidélité, qui nous disent ton amour, qui nous disent ta bonté, qui nous disent aussi ta maîtrise, Père éternel, parce que tu maîtrises toutes choses, Père Tout-Puissant. Nous te bénissons parce que tu nous as donné Jésus-Christ pour qu'au pied de la croix, nous puissions tout déposer. Parce que lui, il a pris nos maladies, il a pris nos souffrances pour que nous prenions sur nous son joug qui est doux et léger. Ô Seigneur, apprends-nous à te faire confiance en toutes circonstances, dans toutes les situations. Seigneur, tu vois combien parfois la chair est faible. Combien, Seigneur, l'environnement parfois peut nous tenter, nous amener à vouloir nous éloigner de toi parce que ça semble évident et facile. Mais Seigneur, donne-nous de garder nos yeux sur toi pour que ce qui est simple et facile ne nous éloigne pas de toi, mais qu'en toute chose, nous recherchions ce qui te glorifie. Seigneur, nous avons besoin de toi parce que par nous-mêmes, c'est tellement simple de nous tromper. Nous avons besoin de la sagesse qui vient de toi. Remplis nos cœurs de cette sagesse. Remplis nos cœurs, Seigneur, de cette humilité qui se dit et qui nous dit « Je veux chercher la face de Dieu en premier pour toutes choses. » Roi de gloire, merci pour les vies qui sont là devant toi. Merci pour chacune des personnes ici qui a entendu ces paroles. Seigneur, je veux te prier maintenant pour que le Saint-Esprit fasse son œuvre, pour nous garder forts et fidèles en toi, dans le précieux nom de Jésus. Amen.